fin de la guerre des drapeaux à l'île de Hans. 20 août 2005, Canada. Ilulissat, Groenland. Le Groenland, territoire danois dans l'Arctique, a décidé de mettre fin à la guerre des drapeaux en n'allant pas retirer le drapeau canadien planté sur l'île de Hans, tout en réaffirmant sa souveraineté sur cet îlot inhabité. Un garde-côte de la marine danoise qui fait route vers l'île de Hans dans le cadre d'inspections routinières n'y accostera pas comme prévu et n'ira pas enlever le drapeau canadien qui y flotte et hisser à la place le drapeau danois et groenlandais, a-t-il souligné.
Comme à l'époque de la guerre froide, les flottes de l'OTAN veulent contrôler l'Arctique, écrit l'hebdomadaire russe VPK, proche des industries de défense.
Le bateau militaire
sans un accident récent à bord du sous-marin britannique Tyler Lys, en français
parages,
Infatigable,
mais sans
en mission dans la zone arctique, dans lequel deux marins ont trouvé la mort, écrit l'hebdomadaire, l'opinion n'aurait jamais appris que la Royal Navy et ses alliés américains avaient mené des exercices dans l'océan Arctique, car aucun pays ne commande les déplacements de ces submersibles. Nul ne l'ignore, les sous-marins américains chassaient les submersibles nucléaires soviétiques. Il est aussi vrai qu'au milieu des années 80, le Pentagone a annoncé que la flotte américaine mettait fin à cette activité en raison de la fin de la confrontation stratégique globale. Mais on peut supposer que tout revient à la normale et que les États-Unis engagent activement les Britanniques dans la mise en œuvre de ce programme de chasse.
A relancé la controverse.
Tartas a déclaré que le Mir 1 avait refait surface après avoir passé 5 heures sous l'eau, alors que le Mir 2 avait passé plus de temps dans le fond océanique pour prélever des échantillons. C'était la première fois qu'un sous-marin travaillait sous la calotte glaciaire, et cela a prouvé que les sous-marins étaient capables de le faire, a déclaré Anatoly Sagalevich, le pilote de Mir 1, après être sorti du sous-marin. Alors que la calotte glaciaire de l'Arctique rétrécit à cause du réchauffement climatique, une course a été lancée pour s'approprier les grandes ressources en énergie qui se situent sous le pôle Nord, dans les fonds océaniques. La mission russe comprend un brise-glace nucléaire qui va tracer le chemin dans la glace qui mènera jusqu'au pôle Nord pour le cargo de commande académique Fedorov. Ce cargo lancera les sous-marins pour qu'ils découvrent en exclusivité les échantillons des fonds océaniques du pôle Nord pour qu'ils soient étudiés. La mission aura aussi pour but de planter un drapeau dans les fonds océaniques sous le pôle Nord pour proclamer symboliquement ces fonds comme étant la propriété de la Russie. Les sous-marins russes et américains ont souvent voyagé sous la calotte glaciaire polaire, mais aucun d'entre eux n'a jusqu'à présent atteint les fonds océaniques sous le pôle Nord, où les profondeurs
Unité
dépassent les 4000 mètres.
Et diversité de l'autochtonie boréale. L'éleveur de rennes Sam, le nomade Dolgan ou Nagnasan, le pêcheur côtier Tchouktch ou Inuit, semblent ne posséder en commun que leurs compétences immémoriales pour la géographie polaire et l'art collectif de la survie. Malgré la taille de leur bassin géographique d'appartenance, près de 8 millions de kilomètres carrés, leurs différences culturelles et linguistiques et des modes de vie qui se sont profondément modifiés au cours du XXe siècle, les peuples du Nord semblent partager une destinée commune marquée par une intégration complexe et parfois dramatique dans leurs états-nations de tutelle. Chacun des peuples polaires a été confronté dans son histoire à une situation de domination par l'arrivée d'une population européenne et les velléités de conversion religieuse, d'assimilation par l'éducation ou d'appropriation des ressources des territoires traditionnels pour un usage mercantile voué à l'enrichissement et au développement des centres urbains éloignés. De l'Alaska ou du Grand Nord canadien aux côtes groenlandaises, de la Scandinavie et des embouchures arctiques des fleuves sibériens aux aléoutiennes, les petits peuples boréaux ont dû composer avec les sociétés de traite de fourrures, les missionnaires moraves, catholiques, protestants, aujourd'hui pentecôtistes, et les agents gouvernementaux dictant la mise en place d'un nouvel ordre social et économique, la confiscation ou la collectivisation de leurs ressources. Au XXe siècle, c'est encore majoritairement l'enseignement obligatoire des jeunes autochtones en langue russe, norvégienne,
au nord de la
danoise ou anglaise,
dans le nord-ouest
qui était le vecteur le plus efficace d'une pensée européenne
qui
dominante,
le nord-est de
qui
œuvra
pour l'assimilation des cultures polaires.
En passant par l'Alaska,
elles ont
et
en
le Canada.
Partage la mémoire du mépris,
les
parfois Yakout, de leur abandon,
qui vivent sur le territoire de la Fédération
au XIXe siècle au nord,
nord-est,
ou dans les années 30 au Canada,
Sibérie arctique.
Désormais,
et sont des populations majoritaires de la République de Sakha.
Comme les Inuits ou les Sams,
382
000 tentatives d'assimilation
en 1989,
ont fait place à une politique de reconnaissance
petit peuple du nord
identitaire
de la
et culturelle.
Russie.